Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir un invité exceptionnel en fil rouge dans le débat du Club des Idées jusqu'à 20h, il a été de toutes les grandes affaires politico-financières de ces 40 dernières années. Robert Boulin, Elf, Karachi, Clearstream, Kerviel, Cahuzac, ancien juge d'instruction au pôle financier. Bonsoir Renaud Van Rombeck.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct pour raconter votre vérité que vous confiez dans un livre absolument passionnant intitulé « Mémoire d'un juge trop indépendant », c'est aux éditions Talendier. Pourquoi dites-vous d'ailleurs dans ce titre « trop indépendant » ?
C'est pas moi qui l'ai dit. Quand j'ai commencé ma carrière, si j'ose dire, et que j'ai commencé à avoir des grosses affaires, notamment l'affaire Boulin, ce sont mes supérieurs hiérarchiques qui ont considéré que j'étais trop indépendant. J'ai découvert ces notations un peu, je dirais, un peu perfides. Je les ai découvertes beaucoup plus tard, quand j'étais poursuivi dans l'affaire Clearstream, où là, j'ai eu accès à l'intégralité de mon dossier. Et en fait, il disait... Il a du caractère,
oui.
Il va falloir... il est trop indépendant, il faudra quand même qu'il mette en gros un peu d'eau dans son vin s'il veut faire un excellent magistrat.
Alors vous l'écrivez cette phrase dans votre livre. Il oui. témoigne de hautes vertus morales, en particulier d'une indépendance affirmée. C'est ce trait de caractère que je redoute pour lui, dit votre supérieur de l'époque, car il peut le conduire à des positions extrêmes ou excessives.
Absolument.
Ça n'est pas une qualité d'être indépendant quand on est juge d'instruction ?
À l'époque, ça ne l'était peut-être pas dans la magistrature, à un certain niveau en tout cas. Puisque j'ai eu deux notations comme ça, par deux supérieurs hiérarchiques à quelques années d'intervalle, qui m'ont dit la même chose en tant que juge et en tant que parquetier. Je l'ai été également au début.
Alors on va y revenir sur cette indépendance qui vous caractérise, Renaud Van Rombeck. D'abord, vous confessez dans ce livre que l'affaire qui vous a le plus marqué, c'est l'affaire Boulin. C'était en 1979, le ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing est mis en cause dans une affaire de montage immobilier et se suicide en laissant une lettre où il vous met directement en cause et il parle d'un juge inexpérimenté, vindicatif et haineux. Et à l'époque, voici comment les médias en parlent.
En quelques heures, le jeune Renaud Van Rombeck est devenu le magistrat le plus célèbre de France. Ce fils d'industriel n'a rien du révolutionnaire ni du juge rouge que l'on s'attend à rencontrer après les accusations posthumes de M. Boulin. Au palais de Caen, on considère le jeune magistrat comme un juge intègre, sévère et méticuleux à l'extrême, mais ne se laissant ni influencer ni impressionner par qui que ce soit.
Vous aviez 27 ans à l'époque.
Oui.
27 ans et vous veniez d'arriver en poste à Caen depuis seulement 2 ans. Vous étiez prêt à ça ?
Non. Non, mais je savais qu'en enquêtant sur les comptes d'un ministre, que d'ailleurs je m'apprêtais à convoquer, d'où la raison, probablement, je n'en sais rien aujourd'hui, du suicide tel que je l'ai vécu à l'époque. Je sentais que je faisais quelque chose qui était inhabituel, en tout cas dans la magistrature à l'époque, puisque... Jusqu'alors, les dossiers financiers ne remontaient jamais à l'échelon supérieur.
Oui.
Les petites mains, ok, on sait faire, mais au-delà, on n'y allait pas. Donc, ce que je faisais était anormal, voilà, pour l'époque. Et je m'attendais à des réactions, mais pas évidemment la mort du ministre, évidemment.
Ça a été le début d'une longue série. Parce qu'après, vous avez
instruit un certain nombre. Il n'y a pas eu d'autres morts, quand même.
Non,
après.
Mais vous avez instruit un certain nombre de dossiers sensibles comme celui-ci. Vous dites, à l'époque, et vous l'écrivez dans le livre, « Ma première grande affaire a été une épreuve. Aucun juge n'est prêt à subir une telle violence. » D'où ma question, Renaud Van Rombeck. Est-ce que vous avez eu des regrets provoqués, pardon de le dire comme ça, même indirectement, la mort de quelqu'un ? Ça doit marquer, ça, dans une carrière.
Bien sûr. Lorsqu'il est mort, ça m'a interpellé très, très fortement. Et je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que t'es pas allé trop loin ? Est-ce que tu aurais dû remonter comme ça ? Et puis, la raison l'a emporté. Je pouvais pas étouffer un dossier. C'est pas dans ma nature.
Oui.
Sinon, je me reniais complètement par rapport à mes valeurs, par rapport à la haute idée que je me suis toujours faite de la justice.
Est-ce que cet événement vous a changé et a modifié peut-être votre manière de mener des enquêtes et des instructions ?
Non. Ça aurait pu. Mais la situation s'est vite retournée et je dirais que ça m'a, au contraire, ça m'a vacciné en quelque sorte pour toutes les épreuves que je vais connaître par la suite.
Je vous pose la question, Renaud Van Rombeck, parce que c'est un vieux débat qui rebondit perpétuellement. L'idée que les juges d'instruction auraient trop de pouvoir et mèneraient parfois leur instruction à charge en fonction de leur intuition. C'est ce qu'on avait beaucoup dit, par exemple, à l'époque, c'est un autre dossier, dans le dossier Outreau. Est-ce que vous seriez, vous, favorable à la suppression du juge d'instruction, comme on l'entend beaucoup dans la bouche des politiques ?
Alors, pourquoi pas ? Mais à condition de donner l'indépendance au procureur. Parce que si vous supprimez le juge d'instruction aujourd'hui, qui est indépendant, et que vous donnez la main au procureur qui, lui, n'a pas les mêmes garanties statutaires, c'est un recul des libertés. Les pays qui ont supprimé le juge d'instruction, par exemple l'Italie, ou un autre exemple que je connais bien, Genève, les procureurs ont récupéré les pouvoirs, mais ils sont indépendants du pouvoir politique. Et le problème en France, c'est que les politiques n'ont jamais voulu donner l'indépendance au parquet. Alors quand ils sont dans l'opposition, ils se plaignent de l'action du parquet en disant ils agissent aux ordres, ils sont sous la tutelle du pouvoir, très bien. Mais les mêmes, quand ils sont au pouvoir, ils disent « Ah ben non, il faut maintenir le lien entre le ministre et les parquets. » Bon, donc, voyez la contradiction.
Vous avez déjà été menacé de mort ?
Une fois. Une fois, j'ai eu des gardes du corps pendant 3 semaines. Je l'ai assez mal vécu parce que j'aime bien marcher librement, me promener. Et donc j'ai mis fin assez vite. D'ailleurs, les menaces se sont... Vous voyez, je suis encore là aujourd'hui, elles ne se sont pas concrétisées.
Vous aviez eu peur à l'époque ?
Non, pas vraiment peur, mais mon entourage avait peur. Et puis les policiers m'avaient dit, je leur avais dit, bon, c'est qu'une menace comme ça, bon... Il m'a dit, attendez, ils ont réservé une chambre dans un hôtel d'où théoriquement ils doivent vous abattre, etc. Bon, donc, ils m'ont dit, prenez ça au sérieux. Donc, je l'ai pris au sérieux. Puis après, j'ai toujours pensé que c'était de l'intox, mais bon, voilà, ça ne m'aurait pas changé ma ligne, de toute façon.
Bon, et vous êtes toujours là. Et
je suis toujours
c'est
là.
Un plaisir de vous recevoir. Le juge Van Renbeck qui est avec nous pour un entretien jusqu'à 20h. On se retrouve juste après la pause. On évoquera les autres grands dossiers qui ont marqué votre carrière. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir un invité exceptionnel en fil rouge dans le débat du Club des Idées, le juge, ancien juge, Renaud Van Renbeck, qui écrit un livre absolument passionnant sur sa carrière intitulé « Mémoire d'un juge trop indépendant » aux éditions Talendi. Alors, on apprend également dans ce livre, Renaud Van Renbeck, avant de revenir aux affaires qui ont marqué votre carrière, que vous avez choisi la magistrature contre votre père, qui détestait la profession. Page 45, vous le citez, les magistrats qui ont condamné pendant la guerre les résistants sont les mêmes que ceux qui ont jugé les collaborateurs à la libération. Ce sont des lâches. Ils n'aimaient pas le métier que vous aviez choisi.
Bah, on peut le comprendre. Parce que tous les gens qui ont fait de la résistance pendant la guerre et qui retrouvent les magistrats les mêmes à la sortie qui condamnent les collabos, il avait raison.
Mais
il
que vous lui avez répondu, vous ?
Je n'ai rien répondu parce que, vous savez, les pères dans cette génération-là étaient des pères qui avaient... Mon père avait de l'autorité. C'était une façon de me dire « Bon, bah, c'est bien ce que tu choisis, mais va falloir... » Et je pense qu'il m'a... En fait, il m'a donné une force qui m'a servi après. Parce que quand vous heurtez comme ça au dictat du père et que vous résistez quelque part, quand je me suis retrouvé face à des hommes politiques ou même la hiérarchie qui ne m'a pas toujours soutenu dans ce corps... ça me paraissait facile, vous voyez. Je m'étais heurté à l'autorité, j'étais passé, j'avais mes idéaux que j'ai gardés et qui m'ont porté et qui m'ont permis d'avancer.
Alors, il y a une autre affaire sensible que vous avez instruite, Renaud Van Renbeck, c'est l'affaire Urba, de financement occulte du Parti Socialiste, via les commissions que versent les entreprises, que versaient à l'époque des entreprises qui obtenaient des marchés publics, bref. Magouille sous le chapeau. Et à l'époque, vous visez un certain Henri Emmanuelli, qui est président de l'Assemblée nationale et premier secrétaire du Parti Socialiste, et qui dit ceci à propos de vous.
Je tiens à dire avec force que je ne formule pour ma part aucune accusation contre l'institution judiciaire ou contre la justice. Je souhaite seulement qu'elle ne soit pas utilisée à des fins politiques lesquelles sont étrangères à sa mission. En effet, il est clair qu'à travers moi, il s'agit d'inculper le Parti Socialiste et lui seul parmi toutes les formations politiques.
Voilà, Henri Emmanuelli qui est trésorier à l'époque et pas encore premier secrétaire, trésorier du Parti Socialiste. Et c'est vous qui prenez la décision de perquisitionner le siège du parti. C'est une première. Jamais un parti politique n'a été perquisitionné. Et vous racontez à l'époque que personne, même les policiers présents, ne savent pas où ils vont perquisitionner. Vous aviez gardé le secret jusqu'à la dernière seconde.
Total. Total, parce que sinon j'ai pas l'effet de surprise, parce que le ministre de l'Intérieur est socialiste. Les policiers, si je les informe, ils vont devoir informer leur hiérarchie. Le ministre de l'Intérieur le saura avant moi. Le parti le saura, c'est du moins ce que je pense.
Oui.
Et même chose vis-à-vis du parquet et des procureurs. Je la vise qu'à la dernière seconde par un fax à 3h du matin en me disant, de toute façon, ils ne le liront pas.
Mais là, vous êtes seul contre tous, en vérité. Vous êtes...
Oui, c'est une... je ne suis pas tout seul parce que j'appartiens à une chambre d'instruction. On est 3.
Oui.
Donc, j'ai agi avec l'aval de mes deux collègues qui savent. Donc, c'est pour ça qu'Henri Emmanuelli, il parle de l'institution judiciaire. Vous avez vu d'ailleurs que le discours politique n'a pas beaucoup changé aujourd'hui.
Hein. Oui, c'est-à-dire
bah, dès que la justice bouge un peu, on critique la justice. On est dans un pays, on ne sait pas ce que c'est que le respect de la justice. Bah, regardez les affaires récentes qu'il y a eu dans la... Il y a eu l'affaire... vous avez eu l'affaire, comment dire... de François Fillon, du Front National, RFI, enfin RFI, pardon, de
la France Insoumise.
La France Insoumise, pardon. et si vous voulez, je ne porte pas de jugement sur le fond. Je dis simplement qu'à chaque fois, c'est la justice qui se retrouve en accusation.
Alors Henri Emmanuelli sera finalement condamné en 93 et à l'époque, l'histoire se répète un peu par rapport à ce qu'on disait avec Boulin, parce que tout le monde vous tombe dessus. La droite y compris. Nicolas Sarkozy dit par exemple, il souffle un vent mauvais sur notre démocratie. Ça, c'est fort de café quand même. C'est-à-dire que l'ensemble de la classe politique fait bloc contre le juge que vous êtes et contre l'institution judiciaire que vous évoquez.
Oui. Parce qu'ils ne trouvent pas normal que la justice aille voir dans leurs affaires.
Dans l'arrière-boutique,
ils se croient au-dessus des lois. Et je crois que s'il y a eu un changement de fait... à travers toutes ces dizaines, depuis cette époque, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus au-dessus des lois. Et c'est fondamental pour la démocratie et pour la confiance que les citoyens peuvent avoir.
Vous dites aujourd'hui, le monde politique, il est plus propre qu'il l'était à l'époque ?
Ah ben, il y a eu des financements, parce qu'à l'époque, tout le financement, la plupart des financements de tous les partis étaient complètement illégaux.
Oui.
Parce qu'il n'y avait pas de financement public. D'ailleurs, quand ils ont créé le financement public, ils ont dit, oh là là, à l'avenir... il va falloir être très sévère pour ceux qui sortent des clous.
L'affaire Clearstream, c'est votre plus grand regret, Renaud Van Rennebeek ?
Oui. Oui, oui. Avec le recul, évidemment, j'aurais pas dû... J'ai fait preuve là-dedans dans cette affaire un peu de naïveté.
C'est la fameuse affaire, on le rappelle, des faux listings, hein, dont le nom de Nicolas Sarkozy était ressorti avec cet indicateur qui vient de EADS, qui est un haut dirigeant du groupe et qui vous donne un listing avec des noms supposés de personnalités qui ont des comptes à l'étranger.
Oui,
et tout était faux.
Tout n'était pas faux.
En partie. En tout cas, le nom de Nicolas Sarkozy était faux.
Il y avait un vrai fichier et quelques noms faux dessus. Et ces informations me sont communiquées par quelqu'un qui m'est présenté comme le numéro 2 de ADS. Je ne pouvais pas penser une seconde à l'époque que ce fichier était falsifié, vu la personne qui voulait me le communiquer. Et je pouvais comprendre, qu'on peut le comprendre, que ce monsieur, vu les responsabilités qu'il avait, ne voulait pas apparaître. Mais il a quand même tenu à se présenter à moi, à se faire connaître.
Donc ça vous semblait crédible comme information.
Mais tout à fait.
Et vous dites,
au départ,
dans le livre, j'ai sans doute fait preuve, c'est le moins qu'on puisse dire, de naïveté et de légèreté. Est-ce que vous vous en êtes voulu après
Bien sûr. Quand j'ai découvert,
mais bien sûr, que c'était une manipulation politique.
Oui, mais j'ai regretté, mais en prouvant que c'était faux. C'est-à-dire que dès que j'ai eu ces informations qui apparaissaient crédibles, j'ai fait des vérifications et j'ai prouvé qu'elles étaient fausses.
Oui.
À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me suis fait embarquer dans cette histoire ? J'ai jeté le truc à la poubelle. Je me suis désintéressé de cette piste qui était une fausse piste et je m'en suis plus occupé du tout.
Ça vous a empêché de dormir pendant un bon bout de temps ?
Alors, ce qui m'a empêché de dormir, c'est le problème de la confidentialité et la loyauté que j'avais. C'est-à-dire que quand j'accepte de rencontrer à sa demande et sur son insistance ce monsieur, pour avoir des renseignements qui sont clés dans l'affaire des frégates, dans laquelle on m'oppose le secret défense, dans laquelle il y a des centaines de millions qui sont partis, dans laquelle il y a un officier à Taïwan qui a été assassiné, j'ai reçu sa veuve...
Bon, oui.
Dans lequel la France avait le risque de se voir condamnée à rembourser 500 millions de dollars, ce qui a eu lieu par la suite. Donc c'est tout ça qui me pousse à écouter cette voix et à essayer de savoir ce qu'il y a dans ce fichier. Heureusement que j'ai été prudent, c'est-à-dire que je n'ai rien fait si ce n'est de vérifier l'authenticité des comptes, ceux qui pouvaient me concerner. Et j'ai prouvé qu'ils étaient faux. Donc ceux qui après ont essayé de me faire croire que j'avais ourdi un complot, que j'étais de mèche avec Gergorin, Monsieur Gergorin, etc. Bon, ça tenait pas la route deux secondes. C'est comme les accusations de Robert Boulin qui me traite de haineux de la société. Bon, on tombe toujours dans des aberrations.
On va continuer à défiler les affaires célèbres que vous avez traitées, Renaud Van Renbeek. À tout de suite avec notre invité jusqu'à 20h, 19h40.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, avec ce soir notre invité fil rouge exceptionnel dans le débat du Club des idées, l'ancien juge Renaud Van Renbeek, qui publie un livre passionnant intitulé « Mémoire d'un juge trop indépendant » aux éditions Talendi. Alors, il y a une affaire, Renaud Van Renbeek, très différente, sur laquelle vous revenez longuement dans votre ouvrage, c'est l'affaire Caroline Dickinson, du nom de cette collégienne anglaise qui s'est retrouvée étouffée après avoir été violée en 96 dans une auberge de jeunesse près de Saint-Malo. Et très vite, l'affaire va prendre un incroyable tournant médiatique en France et en Grande-Bretagne, avec une résonance toute particulière. Et pour la première fois, on voit arriver l'utilisation de l'ADN. Les gendarmes vont d'ailleurs tester tout un village. Je vous propose d'écouter un court extrait à l'époque de l'avocat de la famille Dickinson.
Je ne peux pas imaginer une enquête mieux menée que celle qui est menée depuis un an, depuis que M. Van Renbeek a été chargé par la cour d'appel de Rennes de prendre la succession du magistrat de Saint-Malo. C'est exactement l'enquête que la famille souhaitait.
Voilà, quel compliment.
Ça change des discours des politiques que vous m'avez sortis tout à l'heure.
Alors, ce qui est passionnant dans le récit que vous faites de cette affaire, c'est une affaire criminelle, sordide, qui change des autres affaires politico-judiciaires que vous avez été amené à instruire. Les pistes vont vous mener à un tueur qui rôdait autour des auberges de jeunesse. Vous identifiez un homme qui, 2 ans plus tôt, avait été interpellé pour un comportement suspect en Indre-et-Loire. Il s'appelle Francisco Arce Montes. Et puis, ça débouche sur rien. Et puis, début 2001, votre remplaçant dit ce nom à une journaliste anglaise du Sunday Times qui titre alors avec son nom. Et un policier américain, c'est incroyable, de l'immigration, va tomber sur le journal alors qu'il est en vacances en Angleterre. De retour chez lui aux États-Unis à Détroit, il va découvrir que ce monsieur a été arrêté à Miami alors qu'il agressait une adolescente dans une auberge de jeunesse. Incroyable coup de chance, c'est lui le coupable.
Oui, mais vous savez, c'est comme au football, quand vous marquez un but, c'est parce que l'équipe est bien structurée, elle a bien travaillé, etc. Bon, elle peut aussi ne jamais marquer. En l'occurrence, pourquoi est-ce que mon collègue qui va me succéder lâche le nom d'Arce Montes? Parce que j'ai sélectionné 3000 personnes, à peu près, sur différents critères, des personnes connues pour viol, qui avaient fréquenté la région, etc., qui avaient fréquenté les auberges de jeunesse. Et dans ces 3000, quand je pars, au bout de 4 ans, et que je laisse mon successeur, je lui dis, voilà, il y a une centaine, on en a trouvé 2900, il en reste 100, et c'est un peu comme l'entonnoir, on espère jusqu'au bout qu'il est dans le fichier. Et Arce Montes était dedans, et c'était le dernier, ce qu'on appelait les rouges foncés, parce que les enquêteurs, les gendarmes, vous savez, sont très organisés, ils classaient les verts, les oranges, les rouges, alors les rouges c'était les plus chauds, et les rouges foncés, c'était le dernier rouge foncé qu'on n'arrivait pas à trouver. Et c'est pour ça que quand mon collègue va en Angleterre, il est interviewé par un journal anglais, il dit, il nous reste un suspect, c'est Arce Montes, et il était dans le fichier, il était dans les 3000.
Vous avez réussi finalement, directement, mais votre successeur, grâce à votre enquête, à l'interpeller, sacrée victoire j'imagine, au bout de l'histoire.
Jusqu'au bout, je pensais qu'on était passé à côté, je me suis... En même temps, on se dit qu'il faut attendre que les 3000 soient testés pour avoir un résultat négatif. Mais plus vous avancez, plus vous êtes désespéré, en quelque sorte. Alors qu'en réalité, je l'avais dès le début dans le fichier.
On revient à la politique, si vous le voulez bien, Renaud Van Renbeek. Est-il vrai, comme on le dit partout, que Éric Dupond-Moretti vous a proposé de faire partie de son cabinet au ministère de la Justice?
Oui.
Et pourquoi vous avez refusé?
Parce que, en ce qui me concerne, je trouve que ce n'était pas le bon timing. C'est-à-dire que je ne sens pas, du côté du pouvoir politique actuel, comme les autres pouvoirs politiques, une véritable volonté de donner son indépendance à la justice, de faire des grandes réformes. Je ne vois d'ailleurs pas comment des grandes réformes comme celle-là pourraient être engagées
en
fin
de mandat. C'est quoi la grande réforme nécessaire aujourd'hui?
L'indépendance du parquet.
Oui. C'est intéressant ce que vous dites, l'indépendance du parquet, parce qu'aujourd'hui, les pressions politiques sont trop fortes pour pouvoir faire le boulot en toute indépendance. Et on revient là au titre de votre livre, trop indépendant.
Mais je crois que, en fait, les procureurs ont acquis une certaine indépendance. En fait, depuis tous ces dossiers, où il y a eu un passage au forceps. Bon. Mais rien n'est réglé. C'est-à-dire que leur statut n'a pas changé. Demain, si vous avez un pouvoir un peu autoritaire, il a toujours le pouvoir de nommer les procureurs qu'il veut. Il y a une hiérarchie au parquet. Et les parquets ont de plus en plus de pouvoir.
Mais vous avez déjà, vous, reçu des coups de fil de dirigeants politiques?
Non.
pour vous dire, bon, Lido, Renault, il va falloir traiter ça autrement.
Non, ils n'ont pas osé. Vous savez, l'effet boomerang, ça existe aussi.
Et c'est plus dur d'être un bon juge sous un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche ?
C'est pareil.
C'est pareil.
C'est pareil.
Les pressions sont les mêmes ?
Les critiques sont les mêmes.
Les critiques sont les mêmes.
Les critiques, les tentatives de déstabilisation, les déclarations dans la presse, là où on se pose en victime, où on dit qu'on est victime d'un juge haineux, etc. Tout ça, c'est gauche comme droite. J'ai connu exactement la même situation.
Bien. L'autre grand combat de votre carrière, pour terminer, c'est contre les paradis fiscaux. C'est l'appel de Genève que vous lancez notamment en 96 avec d'autres, d'autres magistrats. Et vous dites, c'est une histoire sans fin, cette affaire-là. Parce que quand on assainit nos relations avec un paradis fiscal, il y en a un autre qui pousse. Hier, c'était le Panama, c'était la Suisse. Aujourd'hui, c'est Dubaï, qui est une véritable machine à laver l'argent sale, hyper sécurisée. C'est un combat perdu d'avance ?
Mais aucun combat n'est perdu d'avance. Aujourd'hui, il est perdu. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'argent sale dans les paradis fiscaux. En même temps, sans avoir de discours démagogique, mais c'est une réalité, vous avez une misère qui se développe de plus en plus, vous avez des déficits dans les États, etc. Et il y a énormément d'argent qui dort, auquel on ne touche pas, qui circule dans cette planète. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une véritable volonté politique pour récupérer, confisquer cet argent et le récupérer pour au profit des États. Ça, c'est quelque chose que je pense que les nouvelles générations, c'est un défi qu'il faudra relever. Comme celui de la pollution, c'est exactement pareil. Oui, il y a de la pollution, mais bon, on fait avec. Ben là, il y a de l'argent sale, on ne peut pas s'en passer, on fait avec. Non. Non, il n'y a pas de fatalité.
J'ai une dernière question à vous poser, Renaud Van Rennebeek, d'actualité, si l'on peut dire. C'est l'affaire des fadettes. Dans l'affaire Big Malion, où le parquet financier a enquêté sur les coups de fil d'avocats, de juges, dont vous-même, je crois, pour identifier l'auteur d'une fuite au bénéfice de Nicolas Sarkozy. Ils ont outrepassé leurs droits, les règles
Non, parce que la loi, c'est pas illégal. Simplement...
Mais ce sont des méthodes que vous condamnez ?
Oui. Jamais j'aurais fait ça.
Pourquoi ?
Parce que je respecte les avocats, je respecte le droit de la défense. Vous savez, quand on dit les droits de la défense, c'est aussi les droits de la personne. Quand vous allez voir un avocat, vous avez le droit à la confidentialité totale. Ça fait partie des valeurs fondamentales auxquelles on ne doit pas toucher.
Merci Renaud Van Rennebeek.
Je vous en prie, c'est
d'avoir été notre invité fil rouge jusqu'à 20h. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre qui s'appelle donc Mémoire d'un juge trop indépendant aux éditions Talendier. C'est absolument passionnant. Il y a plein d'autres affaires que vous évoquez à travers ces 350 pages de récits. Merci.
Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, des archives d'Europe Soir. Et ce soir, on va revenir sur l'inauguration d'un géant des mers, le paquebot France. C'était en 62. À tout de suite.